France Musique. France Musique, les grands entretiens. Judith Chen.
Je m'appelle Bruno Procopio, je suis né à Juiz de Fora, dans le Minas Gerais, en 1976. Je suis claveciniste et chef d'orchestre.
Quand on pense à ces 10 années que vous passez avant de cumuler les casquettes, si je puis dire, vous êtes donc à votre instrument.
C'est
Est-ce
ça.
Que ce travail de claveciniste est pleinement épanouissant?
Absolument, parce que j'ai enregistré des œuvres importantes pour le répertoire en solo régulièrement. Tous les 3-4 ans, j'ai enregistré un disque solo, ce qui me permettait d'être en lien avec le grand répertoire du clavecin et en même temps faire des récitals. Donc c'était plutôt un enrichissement, le fait de faire du répertoire vocal ou orchestral, mais le clavecin ne m'a jamais quitté. Donc je viens d'enregistrer les Goldberg, vous voyez, c'est quand même le sommet. Ça m'empêche pas d'avoir ce petit bijou qu'est le clavecin et ma relation avec le clavecin solo. Donc jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose pour moi est très important.
Et votre rapport à l'instrument même, l'accord, vous occupez de votre propre clavecin?
Moi, personnellement, oui. J'emplume mes instruments, je connais parfaitement l'accord. Je suis un grand...
J'emplume ?
Oui, parce que il y a deux options dans le bec du clavecin, que ce soit en plastique ou en plume. Donc, mes instruments sont emplumés, donc j'ai une relation avec l'harmonisation, ce qu'on appelle ça, le réglage du clavecin, l'harmonisation, très forte. Je connais ça parfaitement. Je pense qu'on peut le cas de la plupart des clavecinistes. On se sent un peu obligé d'être bricoleur, accordeur. Ça fait un peu partie de notre formation, parce que moi, j'ai fait beaucoup de concerts dans des pays, même des pays très civilisés. Je vous présente ce magnifique instrument. Et je sais qu'il y a 3 heures avant le concert et l'instrument ne marche pas. Donc, en fait, les 3 heures apprivoiser l'instrument, c'est les 3 heures pour régler l'instrument afin d'entamer un concert dans une salle de 1000 personnes. J'ai tellement vécu ces genres d'expériences périlleuses que si je ne savais pas régler ou bien accorder, ça aurait été une catastrophe.
Et ça, c'est quelque chose que vous apprenez tout seul en bidouillant, parce que quand on est jeune, en plus, c'est très amusant, ou il y a une science de ça que vous apprenez? Par exemple, quand on est au CNSM, est-ce qu'il y a des professeurs?
Au CNSM, pas du tout. Il y a évidemment cours d'accord, très bien d'ailleurs, mais cours de réglage, non. C'est quand, juste au moment que j'ai quitté le conservatoire, donc en 2000, dans les premières années, j'ai beaucoup fait d'accord en tant qu'accordeur professionnel pour Marc Ducornet, justement pour acquérir cette expérience. Donc du coup, dans l'atelier de Marc Ducornet, j'ai appris à régler, à bien accorder d'une manière professionnelle. Ma première expérience, c'était à l'Opéra de Paris pour William Christie. Il y avait 3 instruments à accorder qui étaient très faux. J'avais 20 minutes pour accorder 3 instruments pendant qu'ils clouaient et qu'ils passaient l'aspirateur. Donc, si vous voyez la difficulté du métier qu'il faut avoir pour accorder 3 instruments 20 minutes avec l'aspirateur et la perceuse, ça, c'est le métier. Donc, on n'est pas du tout en train de penser à des choses qu'on apprend au conservatoire, de voir combien de battements il y a entre une quarte et une quinte. C'est pas ça. Le métier, c'est bien accordé avec du bruit.
On accorde différemment pour jouer du Bach ou du Rameau, ou on accorde
bien,
pareil?
Bien évidemment. Il y a une profusion de tempéraments que se côtoyaient à l'époque. Le tempérament donne une couleur au son. Mais il y a des grandes familles. Le tempérament allemand, d'une manière générale, ce qu'on appelle le tempérament circulaire, c'est le tempéré, comme a dit Bach lui-même, est tout simplement prendre le tempérament égale, où on partage tous les intervalles de la même manière, et on va le modeler afin d'avoir certaines tonalités qui vont avoir l'impression, entre guillemets, d'être plus sales que d'autres, en mettant certaines tonalités, on va dire, plus pures, on va dire, avec moins de piquant. Ça, dans un tempérament allemand, 18e circulaire. Mais avant cette tradition-là, on a la grande tradition, ce qu'on appelle la tradition du mésotonique, c'est qu'on accorde avec des tierces pures, qui va avoir un timbre très particulier, mais par contre, on ne pourra pas jouer toutes les tonalités. Ce sont des accords qui sont faits pour certaines tonalités, pas d'autres. Et pour Rameau, parce que c'était la question, Rameau, il avait des tempéraments pour du dièse et pour du bémol. Donc, c'était pas du tout le même. Et lui-même, il a préconisé le tempérament égal. Chose que je ferais, par exemple, pour l'orchestre.
Ah oui. D'accord.
Donc, vous voyez, même à l'époque de Rameau, il avait des tempéraments qui étaient radicaux. Donc, il fallait choisir sa tonalité avant même d'accorder. Néanmoins, le tempérament égal était déjà en vigueur.
Après ces années à jouer pour les autres, à enregistrer peut-être pour les autres, vous allez monter vos propres ensembles et puis votre label discographique. Il y avait le besoin d'enfin être libre.
En théorie, vous avez tout à fait raison. Dans la pratique, c'est moins beau que cela. C'est que quand on crée son propre label discographique, au départ, c'est ça. C'est qu'on veut faire ce qu'on a envie de faire et qu'on n'a pas forcément l'opportunité de faire ce qu'on a envie de faire. Quand on est jeune musicien, qui était mon cas, on peut insister auprès des labels, ça peut prendre 2, 3, 4, 5 ans, jusqu'à arriver à faire sa propre production. Je me suis dit, pourquoi pas créer sa propre entreprise pour avoir enfin la liberté? Donc du coup, je ne me poserai plus la question de la faisabilité des choses. Mais en fin de compte, je me suis rendu compte très rapidement que cette liberté avait un prix. C'est que je ne pouvais pas jouer cavalier seul et en même temps avoir un distributeur qui était ce que j'avais comme Harmonia Mundi aujourd'hui Piast, d'envergure mondiale pour faire une, deux productions d'autoproduction par an. Je n'aurais pas suffisamment de crédibilité pour engendrer suffisamment de partenariats qui me permettraient d'être libre. Donc finalement, cette idée initiale était tout de suite dans l'obligation d'évoluer vers un modèle d'entreprise beaucoup plus poussé, parce que être label aujourd'hui, il faut savoir produire. Que le cas de Parati, je fais 30 disques par an. On n'est plus du tout dans l'esprit initial de « je vais créer mon label pour me faire un disque ». Donc, finalement, l'idée, c'était ça, mais la réalité m'a rattrapé.
Oui, mais alors, est-ce que vous trouvez aussi de l'intérêt à produire les autres?
Ah oui. Et c'est là qu'y rentre la générosité.
Et le goût personnel? Est-ce qu'on produit que ce qu'on aime?
Absolument pas. Il faut pas dire. Mais il faut être extrêmement exigeant sur des tas de paramètres. La qualité. Ma mission est en tant que label, en tant que producteur. Je ne suis pas là pour dire j'aime ce que vous faites, j'aime pas ce que vous faites. Il faut savoir accompagner les gens. Et je trouve que c'est la chose qui m'a plus enrichi dans cette démarche, c'est ça. C'est le fait de trouver des solutions pour les autres que finalement j'ai trouvé pour moi-même.
Tout ça, c'est aussi le fruit d'une situation qui fait que d'être uniquement musicien, si je puis dire, aujourd'hui c'est difficile.
Vous avez tout à fait raison. Être musicien, c'est extrêmement compliqué. Quand on est au Conservatoire de Paris, on apprend à bien jouer, mais on ne nous apprend pas à faire de cela un métier, ou très peu. Bien jouer suffirait. Non, il faut s'armer des tas d'autres métiers qui ne font pas partie initialement de notre formation, afin d'avoir suffisamment de liberté pour faire ses propres projets et avancer dans la carrière de musicien. Il y a plein de musiciens qui veulent faire des choses, qui ne savent pas comment faire. C'est un métier d'offre, pas de demande. C'est un métier de subvention.
C'est pas juste de jouer très bien du clavecin et d'être programmé par des salles de concert. En fait, il faut s'armer aussi si je vous suis, Bruno Procopio, de ce côté que vous, vous avez développé en ayant un site d'information, en ayant aussi un label de disque, en ayant un festival, en étant force de proposition, en fait, véritablement. C'est ça, d'avoir aussi un côté manager et pas uniquement musicien.
C'est exactement ça. L'ADAMI, le Centre National de la Musique, qui nous offre des possibilités aujourd'hui, en fin de compte, nous met aussi des difficultés, parce que la compréhension de ces dossiers, les documents à fournir et la manière de procéder est tellement pointilleuse qu'un musicien qui sort du conservatoire et qui a des projets magnifiques, je trouve qu'il aurait beaucoup de difficultés aujourd'hui d'accomplir cette mission de la recherche de fonds. Donc c'est quelque chose qu'on doit apprendre. Et donc une de mes missions, c'est justement montrer aux jeunes le chemin de cette connaissance.
Pour vous, Bruno Procopio, c'est une souffrance ça ou c'est un mal pour un bien ?
C'est un mal pour un bien.
Vous allez fonder aussi, Bruno Procopio, vos ensembles. Je pense peut-être aux solistes du Palais Royal. Cet ensemble est pensé véritablement pour un certain répertoire.
Oui.
Et j'aimerais que vous racontiez aux auditeurs de France Musique ce qu'est ce répertoire qu'on méconnaît en France,
oui.
Qui est le répertoire de la musique coloniale.
Ah oui, fantastique.
Lienne. Et ça, je pense qu'il y a un homme, Alain Paquet, qui compte beaucoup pour la manière d'avoir exhumé ce répertoire, de le faire connaître.
Je connais très bien Alain. Il a fait un travail merveilleux avec Cass 617 de mettre en valeur tous ces répertoires qu'on appelle colonial parce que c'est tout simplement, vous voyez ce que c'est. C'est de la musique européenne faite avant que ces pays soient indépendants. Donc, qui commence à la toute fin du XVIIe siècle, mais le gros du répertoire est plutôt du XVIIIe siècle. Et donc, Alain Paquet, il a fait pratiquement tous les pays de langue espagnole. Donc, en commençant par l'Argentine jusqu'à la musique très importante du Mexique. Donc, ce que j'ai voulu faire, c'est justement la musique de mon pays, le Brésil, qui est à part dans cette histoire-là, par un fait historique unique. C'est qu'un unique pays qui a rencontré un exode royal était le Brésil. C'est l'unique pays qui a reçu une cour européenne, c'est le Brésil. Donc la cour du Portugal, chassée par vos amis Napoléon là, et compagnie, général Junot, etc., arrive aux portes de Lisbonne, il n'a plus le choix. C'est de là qu'il venait l'or du monde. La moitié de l'or était au Minas Gerais. Donc, il savait que dans un moment difficile, il fallait aller au Brésil. Donc, il décide en 1807 de partir. Et il y a plus de 20 000 personnes, ça veut dire toute la cour et l'aristocratie portugaise, va habiter à Rio. Donc, on retrouve à Rio, tout simplement, une grande cour européenne avec la deuxième bibliothèque d'Europe, avec un orchestre, un chœur, des solistes. Et donc, du coup, ça va changer le cours de l'histoire dite coloniale. Ça veut dire qu'il y a des compositeurs tels Marcos Portugal, tels Nunes Garcia, qui va faire Marcos Portugal, qui est un compositeur aujourd'hui oublié de l'histoire du monde, parce qu'il a quitté Portugal. C'était le premier compositeur portugais. Et il est mort au Brésil, mais il était blanc, vous voyez. Donc, Villa-Lobos, dans toute cette époque nationaliste, il faut oublier les compositeurs blancs. Donc, il est oublié de l'histoire. Mais que lui tout seul, à la cathédrale de Rio, il va composer 130 œuvres dites monumentales. Ça veut dire œuvres de chœur, orchestre et soliste. 130. Il n'y a pas d'équivalent ailleurs dans le monde dit colonial. Au Brésil, on va retrouver avec de la musique savante de très haut vol. Donc, je trouve que c'est une mission pour un Brésilien d'essayer le plus qu'on peut, avec toute la difficulté, parce qu'il y a beaucoup de la musique qui reste encore manuscrite, de faire ce répertoire. Toute la grande difficulté, c'est qu'il faut, pour sa grande majorité, chœur, orchestre et soliste.
Oui, ce sont des très grandes formes.
Il n'y a que ça.
Il y a des opéras aussi, il y a beaucoup de musique religieuse.
Exactement, et pratiquement que de la musique religieuse. Il y a beaucoup d'opéras et il y a pratiquement pas de musique de chambre. Donc, dès qu'on veut aborder ce répertoire-là, il faut avoir beaucoup de gens devant soi.
France Musique, les grands entretiens de Bruno Procopio.
Elle est comment, cette musique ?
Cette musique-là, c'est une musique qui est tardive. Donc c'est une musique de tout début du 19e, de forte influence italienne. Le meilleur opéra du monde était l'opéra de Lisbonne, il ne faisait que la musique italienne. Marcos Portugal, il travaille en Italie, il travaille à Naples, au théâtre San Carlos. Et il va faire venir au Portugal la Malibran, qui va venir en France après. L'opéra le plus joué à Paris en 1816 était un opéra de Marcos Portugal. Je veux dire, la musique italienne était faite parfois, pas par des Italiens. Le Marcos Portugal était peut-être son meilleur ambassadeur à ce moment-là. Et donc, la musique brésilienne à ce moment-là, elle est très rossinienne. Et il y a même des airs de Marcos Portugal dont Rossini a fait du plagiat. Donc cette musique-là, elle est profondément italienne avec un parfum de musique viennoise. Parce que on va retrouver au Brésil un très grand compositeur français qui était Sigismund Neukomm. En 1816, il part au Brésil avec la mission française. Neukomm, c'était quand même un élève de Michael Haydn. Il est né dans la même rue que Mozart. Vous voyez ? Donc, il va voir ce mélange entre grande musique savante viennoise d'un compositeur français, qui était Neukomm, envoyé au Brésil en tant que tel, presque comme ambassadeur caché, et qui va côtoyer cette musique italienne dans un endroit où il y avait peut-être le meilleur castra du monde, avec une bibliothèque incroyable. Donc, c'est, vous voyez, on n'est pas du tout dans ce petit contexte dit colonial qui peut être despectif ou péjoratif. On est là, peut-être, dans un grand moment de l'histoire occidentale qui reste encore à exploiter.
Núñez Garcia, lui, qui est-il et quelle est sa
Donc, Núñez Garcia, c'était...
On a parlé de Marcos Portugal,
oui,
qui est évidemment très important, mais... Oui.
Núñez Garcia, c'est un personnage incroyable. C'était un fils d'esclave qui est rentré dans des ordres religieuses pour échapper ce qu'on appelait à l'époque le ventre libre. Ça veut dire que ceux qui, fils d'esclaves à partir d'une certaine date, rentraient dans un ordre religieux n'étaient pas considérés en tant qu'esclaves. Donc il était noir, fils d'esclaves, mais affranchi. Donc qui va, d'une manière autodidacte, sortir de ma région, Minas Gerais, il va aller à Rio et qui va devenir compositeur. Et donc, quand la cour portugaise arrive à Rio, c'était lui le maître de chapelle de cette église, qui va tout de suite perdre le poste, parce que Marcos Portugal arrive, s'appelle Perruque, et qui détrône le petit mulâtre. Néanmoins, le génie de Núñez Garcia est quelque chose de remarquable. Il était cité dans deux revues à Vienne comme en étant un des meilleurs improvisateurs au monde, dit par Neukomm lui-même, qui quand même a écouté à Haydn, vous voyez. Donc, il dit que le petit mulâtre était un des musicien improvisateur le plus génial que l'avait écouté. Et donc, Núñez Garcia, il va composer, je trouve, la plus grande œuvre faite dans toutes les Amériques confondues, peut-être jusqu'à Copland, qui est la messe de Sainte-Cécile, faite à Rio en 1826. Quasiment pas donnée en Europe. C'est un rêve absolu pour moi.
Ça, vous caressez ce rêve, parce que c'est quoi ? C'est aussi un effectif énorme ?
C'est un effectif colossal, de chœur, orchestre, soliste, assez important, avec beaucoup de solistes. C'est une œuvre majeure qui dure presque 2 heures.
Vous ne connaissez que par une bibliothèque, en fait ?
Non. Cette musique, elle a été faite d'une manière un peu amateur au Brésil. Parce que, encore une fois, au Brésil, on donne pas beaucoup de valeur à cette musique-là, parce que la musique qu'on honore au Brésil, c'est Villa-Lobos. Donc, quand on dit courant national, on ne va pas repêcher le passé de la musique brésilienne. Núñez Garcia, il y a une œuvre monumentale. Des dizaines et des dizaines des grandes messes avec chœur orchestre. Je mets Núñez Garcia dans le même piédestal que je mettrais Berlioz pour la musique en France. Sauf qu'en France, on a des festivals Berlioz, on a des François-Xavier Roth qui savent honorer le patrimoine français. Et nous, les Brésiliens, comme par habitude, on a la tendance à oublier.
Les compositeurs qui sont très importants à vos yeux, on a entendu un petit peu depuis le début de cette série le nom de Jean-Philippe Rameau, celui de Bach, Jean-Sébastien, comme Carl-Philippe Emmanuel. Oui. Si on commence peut-être par Rameau.
Ah, par les Rameaux. En parlant Rameau.
La première œuvre que vous écoutez de Rameau, est-ce que c'est une œuvre que vous entendez? Est-ce que c'est une œuvre que vous jouez au clavecin? Sont les pièces de clavecin en concert? Quelle est votre découverte, en fait, de ce compositeur? Comment elle se fait?
Je n'ai pas de souvenir. Certainement par le clavecin, qui pour moi est de loin l'œuvre la moins intéressante du compositeur. Donc, la musique dont j'étais censé faire. Ce n'est pas celle qui m'a fait devenir un admirateur de Rameau. Rameau, pour moi, il va commencer en 1733 avec Hippolyte Aricis, son premier opéra. Et c'est là qu'il va, pour moi, changer le cours de l'histoire de l'humanité par la beauté de son œuvre. Et donc, quand je m'affaire à ces compositeurs, je pense tout de suite à cette musique-là qui n'est pas intrinsèquement liée à la musique de clavecin.
Vous pleurez sur Tristes Après.
Ah ben, si vous ne pleurez pas sur Tristes Après, il faut qu'on revienne au sujet, parce que c'est un hymne qui embrasse toute l'humanité. C'est que, est-ce qu'on se rend compte, est-ce que les Français se rendent compte de la beauté de cela, et comment la beauté peut changer des tas de choses? C'est par la beauté qu'on change le monde. C'est que ça qui fait changer le monde. Et Tristes Après, c'est un très bel exemple.
Qu'est-ce qui vous fascine le plus dans Hippolyte et Aricis?
C'est difficile à dire. Je pense que la première chose quand on est happé par un compositeur, c'est tout ce qu'on ne peut pas expliquer. Rameau, dès la deuxième note, on sait que c'est du Rameau. Donc on peut aimer, admirer la manière de faire, l'art savant, et juste trouver beau. Dans mon cas, c'est quelque chose qui va bien au-delà. C'est quelque chose que me parle plus profond de moi. Je suis émerveillé à chaque fois. Ça veut dire, je ne dirai à personne, mais j'écoute du Rameau tous les jours. C'est complètement absurde. Mais on est noble dans le côté humain des choses. Peut-être l'œuvre qui me fait sentir le plus humain, en écart à ce qui est la nature, c'est cette musique-là. C'est ce que je ressens. Après, de manière plus pragmatique et en analysant, tout ce qui était connu à l'époque, il figure dans sa musique. Le chant, le récitatif,
la danse,
tout ce qui était connu depuis Lully. Donc, on n'a pas besoin de Rameau pour nous démontrer ce que la tradition française faisait déjà. C'est dans cette volonté de cristalliser la nature dans un fondement qu'il appelle le fondement harmonique qu'il va créer quelque chose de différent. Et ce différent-là vient dans un moment unique dans l'histoire de la musique et qui est le moment qu'on s'écarte du goût français vers le goût italien. Donc lui, il a senti peut-être un besoin de pousser encore plus loin ce goût dit français pour pouvoir tout simplement exister dans un moment où il y avait l'assaut de la musique italienne. Donc, vous voyez, donc il y a toute l'essence de la musique française qu'on connaît depuis Lully, mais avec une volonté d'aller beaucoup plus loin. Et après Rameau, tout simplement, ça va disparaître. Ça va disparaître ce courant-là. On aura les Gluck, les Sacchini, les Piccini, qui va faire de la musique française, du goût français, mais ça va être une musique italienne avec un parfum de France. Mais Rameau, ce n'est pas un parfum, c'est l'essence des choses.
impériale Véronique Gens dans l'air de Télaïr à l'instant pour refermer le quatrième épisode des Grands Entretiens avec Bruno Procopio. Équipe de réalisation Gilles Blanchard, Arthur Gerbeau, Valérie Lavalard, Marie-Christine Ferdinand. Suite et fin de ce portrait demain à la même heure. Les Grands Entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.